Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Deuxième message d'une série sur les 10 commandements. J'ai appelé ça, l'ensemble de la série, c'est des lois pour vivre. Il nous a dit dans la parole de Dieu que si on applique les lois de Dieu, c'est des lois dont nous pourrions vivre. Et là, la semaine dernière, on avait vu que le titre, c'était « Quelle place pour les 10 commandements dans notre vie ?» On s'est posé la question par rapport à nous, en tant que chrétiens. Un chrétien, on n'est pas sous la loi, on vit dans la grâce de Dieu, on vit par la foi. Mais il y a encore une place pour les 10 commandements, pas seulement dans notre vie, mais on peut aussi se poser la question pour notre société, pour notre pays, pour le monde dans lequel on est. Et on avait conclu 3 choses. Premièrement, que la loi est toujours en vigueur, parce qu'elle a été donnée par Dieu lui-même. Dans Exode 31:18, on voit que c'est Dieu lui-même qui avait donné ces lois. Il nous est dit « Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Donc, c'est pas une chose inventée par les hommes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'était que la loi, elle est inapplicable, car aucun homme ou femme n'a jamais pu. Il y en a, regardez un peu les épîtres de Paul, en particulier dans Romains 6 et 7, les épîtres très doctrinales, où il dit, même quand on a envie de faire le bien, souvent on est empêché à cause de notre nature humaine. Et troisième point, c'était que la loi, elle est utile. Elle est utile pour nous faire prendre conscience de notre état. Donc, éloigné de Dieu, incapable de faire sa volonté, et de nous conduire à Christ. Et tout à l'heure, quand j'ai dit « aucun homme ou femme n'a jamais pu », lui, il est celui qui l'a pu parfaitement accomplir la loi. N'a jamais failli en aucune chose que Dieu exigeait. Et donc, aujourd'hui, on rentre dans le vif des sujets, puisqu'on avait fait un peu une présentation des 10 commandements, et maintenant, on rentre vraiment dans le vif des sujets, et on va voir, titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et quand c'est « autre Dieu », c'est « Dieu au pluriel et avec un D minuscule ». Donc il s'agit du premier commandement. On trouve donc les 10 commandements essentiellement dans Exode 20. Il nous est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Alors où est-ce que c'est écrit? On a rappelé que c'était gravé par le doigt de Dieu, et même, le petit rappel, dans Exode 32 aussi, il y a une petite précision très intéressante concernant la façon dont ces lois ont été transmises, au verset 15 et 16. Donc il est dit « Moïse retourna du mont Sinaï, il est retourné vers le peuple, il descendit de la montagne et il a les 2 tables du témoignage dans sa main. » Alors ceux qui connaissent, vous avez peut-être cette image du film Charlton Heston qui descend la montagne avec les 2 tables. Bon, ça c'est le cinéma, mais la réalité c'est que Moïse est effectivement descendu avec les tables du témoignage dans sa main. Et les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Bon, la Bible donne des précisions, il y a toujours une raison. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Vraiment très précis, c'était l'écriture de Dieu. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Voilà ce qu'il a dit. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Donc, pour commencer, tout de suite, 2-3 petites précisions. Donc, tout cela, c'est un seul et même commandement. « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. »
ou demande ma face, comme on dit dans une autre version. Tout le reste, ce sont des choses qui en découlent. Et j'avais déjà dit, mais j'aime répéter certaines choses, quand il est dit « je punis la faute des pères jusqu'à la troisième, quatrième génération », ça veut dire que ce que nous faisons en bien ou en mal a toujours une conséquence. Si nous faisons le mal, ça a des conséquences sur d'autres personnes qui nous suivent, qui suivent notre influence, qui peuvent recevoir des choses mauvaises dans leur vie à cause de nos actions. Mais en même temps, l'accent est mis sur la bonté de Dieu jusqu'à 1000 générations. Donc, ça veut dire que la grâce de Dieu l'emporte toujours largement. Ensuite, le fait que Dieu se présente en disant « Je suis celui qui t'ai fait sortir de l'esclavage », je trouve que c'est une excellente présentation. Parce que des fois, on veut présenter les lois comme étant un carcan rigide, comme quelque chose qui nous écrase, qui nous emprisonne. Mais non, on commence tout de suite par expliquer en disant « Moi, je suis celui qui t'ai fait sortir de l'esclavage. Et maintenant, les lois que je te donne, c'est des lois de liberté, des lois pour en vivre et des lois qui sont bonnes pour toi et pour la société en général. Donc, il ne s'agit pas de les rejeter. Alors, qu'est-ce qu'on peut maintenant retirer de ce premier commandement ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Premièrement, c'est que Dieu est unique. Il est le seul. Il est le seul et on peut voir, par exemple, la prière de Jésus, on appelle ça des fois avec un terme un peu religieux ou un peu théologique, la prière sacerdotale, elle se trouve dans Jean 17, quand Jésus a prié, il a dit la chose suivante, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et voilà ce qui est important pour nous dans notre contexte. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais c'est la réalité de la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit, tu es le seul vrai Dieu. Au niveau de la création, tout au début, il nous est dit que Dieu a créé. Genèse 1, au commencement, il y avait Dieu. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au début, il y avait la parole de Dieu. Elle était avec Dieu, et en même temps, elle était Dieu. Il y a donc une unité. Et dans la création de l'homme, il nous est dit, dans Genèse 2, « Faisons l'homme à notre image ». Il y a donc un pluriel qui est utilisé. Dans Genèse 1, 26, pardon. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et on dit que ce terme utilisé, c'est Elohim, qui est un nom pluriel. Donc nous avons un seul Dieu, mais en plusieurs personnes. Donc l'idée erronée de la plupart des gens qui peuvent être autour de nous et ne pas connaître la parole de Dieu telle que nous la connaissons, c'est que l'humanité a émergé peu à peu, évolution, et donc les gens ont adoré toutes sortes de dieux. Il y avait des religions polythéistes qu'on appelle ça. Et peu à peu, avec l'évolution de la mentalité et du genre humain, on est arrivé à des religions monothéistes. Mais pour nous, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Au commencement était Dieu, Adam et Ève avaient une connaissance de Dieu et une relation avec Dieu. Et peu à peu, cette relation s'est perdue et l'homme a commencé à s'égarer dans toutes sortes de directions. Et cette chose nous est expliquée très clairement dans Romains au chapitre 1 et au verset 19. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu l'a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Il parle de la création, de tout ce qu'on peut voir, de ce que Dieu avait fait. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ils sont inexcusables, ça veut dire ceux qui essayent de se justifier et de refuser ce que Dieu demande. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc on parle du genre humain qui s'est détourné du Dieu unique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et là, on s'engage justement dans toutes les mythologies, dans toute cette diversité qu'il y a eu avec des représentations de divinités de toutes sortes. Et on a exactement l'inverse de ce que nous dit la Bible, puisque la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu est esprit, on a été créé en tant qu'esprit. Et on voit que ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Les hommes ont fait des dieux à leur ressemblance. Si on prend juste la mythologie grecque, on attribue aux dieux du Panthéon toutes sortes de comportements qui sont rien d'autre que les comportements humains, avec les choses bizarres qui peuvent arriver aux humains, de toutes les choses négatives. Tout cela est dans leur imagination de leur dieu. Et là, nous avons encore une précision dans 1 Corinthiens 8 concernant Dieu et les dieux. Parce que dans l'Antiquité en particulier, l'apôtre Paul, quand il écrivait, était très conscient de toutes les croyances qu'il y avait autour de lui. Il y avait des statues, il y avait des temples, il y avait partout des dieux. À Athènes, il dit, là vous avez fait très fort, vous aviez même un temple dédié au dieu inconnu. Il y a un dieu, on ne le connaît pas, mais on lui fait aussi un temple. Et puis il y avait toutes sortes de situations. Alors, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens et il dit la chose suivante. Au verset 3, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Et il dit, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc il explique en disant, je me rends bien compte, réellement autour de moi, il y a des temples, il y a des statues, il y a des dieux qui sont appelés un tel Zeus et tous les autres. Et il dit, mais pour nous, réellement, il n'y a qu'un seul Dieu. Même si d'autres donnent des noms à diverses idoles, il dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui veulent ignorer. Dans 2 Pierre 3, verset 2, il dit, certains veulent ignorer. Parce qu'on ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu, on s'invente une nouvelle façon de voir les choses, de concevoir les choses, et on veut ignorer. On est de nouveau dans Romains 1, on avait lu quelques versets, et on continue dans notre réflexion, on avait dit qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc l'adoration, vous vous rappelez, on a lu tout à l'heure, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ou devant moi. L'adoration à Dieu seul est détournée au profit de créature ou de création, au lieu d'adorer le Créateur. Et on se rend compte que ça, c'est le vrai enjeu. Vous vous rappelez peut-être dans Jean 4, quand Jésus a dit ce que Dieu demande, au verset 24, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et même le mot « demande », j'ai souvent insisté là-dessus, mais j'aime le répéter encore, le mot « demande », c'est le mot « exiger ». C'est ça ou rien du tout. C'est pas une option. C'est pas j'adore un petit peu Dieu et beaucoup d'autres choses en plus. C'est l'adoration doit être tournée vers Dieu et ne pas être détournée pour adorer la créature. C'est-à-dire ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Et alors ça peut prendre beaucoup de formes. Pour certaines personnes, ben, le fait d'adorer un Dieu particulier chez les Grecs, avec tout ce parterre de Dieu, c'est-à-dire que vos tendances, vous pouviez les assouvir en adorant Dieu. Vous adorez le Dieu de la guerre, ça justifie votre esprit belliqueux. Vous adorez Aphrodite, déesse de l'amour, ben vous allez dans un temple, et là il y avait des prostituées sacrées, vous pouviez vous livrer à la luxure, et en même temps dire « j'accomplis mon devoir religieux ». Voyez, donc chaque étape comme ça de ces choix de Dieu sont en fait des choix pour vivre ce qu'on veut. Et en faisant ça, on sort du meilleur de Dieu pour se laisser enfermer. Donc, ce qui prend la place de Dieu, chez certains, c'est le moi. Ils disent, non, moi, je ne suis pas de Dieu. Et alors, en fait, on se rend compte, c'est moi d'abord. Moi d'abord. Donc, ce qui peut prendre la place de Dieu, on a dit, adorer la créature. Je suis une créature, je peux m'adorer moi-même. Là encore, dans le monde grec, il y avait le culte du corps. Les athlètes nus qui étaient dans les arènes, c'était une obsession du culte du corps qui, vous savez, rien de nouveau sous le soleil, revient à la charge maintenant. Le corps, pas qu'il faut pas faire d'exercice physique, mais le fitness à outrance, etc., pour toujours rester jeune, beau, bronzé et tout ce que vous voulez. Donc, c'est le culte du corps. Mais ça peut être moi au niveau de ma personnalité, au niveau de toutes sortes de choses. Ça peut être une passion, ça peut être un objet. Vous pouvez adorer votre voiture, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, plein de choses. Des choses. Adorer la création. La créature ou les objets, mais on est détourné du vrai sens de notre vie, de notre existence. C'est d'apporter notre adoration à notre Dieu et au seul vrai Dieu. Et c'est aussi dans ce contexte qu'on continue un petit peu. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation. Parce que Dieu sait comment est la nature humaine. Au bout d'un moment, on se détourne. Au début, vous savez, quand ils ont créé le veau d'or, pendant que Moïse était sur la montagne, en train de recevoir la révélation de Dieu et les 10 commandements, le peuple était en train de fabriquer un veau d'or. Ils n'ont pas dit « c'est un autre Dieu ». Ils ont réellement dit « voilà, c'est ça le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Donc, ils ont donné une représentation de Dieu. Vous croyez que c'était en l'honneur de Dieu d'être présenté de la façon d'un animal? Justement, on a vu que non, pas changer la gloire de Dieu en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Donc, pas de sculpture sacrée, pas de représentation. Parce que n'importe quelle représentation sera toujours une réduction, même si c'était une belle représentation, c'est réduire Dieu en disant « il est comme ça ». Et surtout, il est une statue qui ne répond pas, qui ne donne pas d'aide, qu'on ne peut pas dialoguer avec. Donc, ces choses, de la même façon que l'adoration vers la créature nous détourne de Dieu, les sculptures nous détournent de la réalité céleste. L'apôtre Paul, quand il a été dans le troisième ciel, il a dit, en revenant, j'ai entendu et j'ai vu des choses, j'ai pas de mots pour les exprimer. C'est indescriptible. Il n'y a pas de mots sur la terre pour décrire réellement le ciel. Donc, on est toujours en dessous de la réalité céleste. C'est pour ça que c'est tellement important, parce que plus on veut représenter dans le monde matériel la réalité céleste, plus on est à côté. On est à côté parce que c'est trop réduire. On peut peut-être représenter Jésus terrestre. Ça, ce n'est pas gênant. Vous pouvez dessiner quelqu'un qui a une barbe, qui a une robe, des sandales. Vous dire, voilà, c'était Jésus qui a, pendant 3 ans, exercé son ministère. Vous pouvez imaginer que le Jésus de Nazareth, de Zéphirélie, c'est Jésus. Moi, il me plaît pas trop. parce qu'il est un peu maladif. Il y a des très bonnes choses. Ça a quand même permis de communiquer l'évangile à des gens et de présenter. Mais il y a une part de Jésus qui n'est pas vraiment Jésus. Alors vous pouvez avoir, et c'est là que j'en viens, vous pouvez avoir un Jésus qui était, selon le cas, blond ou roux. Il y en a qui ont fait un film de Jésus avec un Jésus indien, donc de l'Inde, et que je trouve ce qui a du sens. Ça parle plus aux gens. Si vous avez l'impression, vous habitez en Inde, et vous regardez un film de Jésus, et Jésus ressemble à un viking, je veux dire, ça vous parle pas, mais c'est le sauveur du monde entier. Donc, qu'il soit blanc, blond, roux, noir, indien, ou peu importe, mais c'était le Jésus qui marchait sur la terre, d'accord? Il était comme un simple homme. Dans ce sens, la représentation de Jésus n'est pas choquante. Mais par contre, maintenant, quelle est la réalité céleste de Jésus? C'est là qu'il est indescriptible. Et en fait, on a une description de lui, mais je ne sais pas si ça vous aide beaucoup, parce que dans Apocalypse 12, Jean se retourne pour savoir quelle est la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Bon, pour le moment, c'est pas encore vraiment la description de Jésus. Mais maintenant, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc, le timbre de la voix, ça vous dit rien. Vous avez l'impression d'être au milieu des chutes du Niagara. Donc, voilà, c'est juste une espèce de bruit immense, comme avec beaucoup de puissance qui se manifeste. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. La seule chose que ça me dit, 7 étoiles, c'est immense, c'est la plénitude. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et, l'important, la description de son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je ne vous conseille pas de fixer le soleil quand il brille dans sa force. Vous pouvez avoir vos yeux qui soient abîmés. Donc, grosso modo, on a quoi comme description? Voilà, c'est indescriptible, c'est glorieux, c'est puissant, c'est un rayonnement extraordinaire, mais on ne peut pas faire de représentation. Parce que là, ce n'est plus le Jésus terrestre. C'est le Jésus tel qu'il est maintenant, l'être éternel. Et où il est, le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, ça c'est un aspect. On a un Dieu unique. Ensuite, on a vu quoi? Pas de sculpture sacrée, pas de représentation. Pas seulement de ce qui est Dieu lui-même, mais même des représentations du ciel. On a des témoignages de gens qui étaient au ciel, qui sont revenus, et ils ne concordent pas entre eux. Ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent nous dire, il y a une mer de verre, il y a de ceci, il y a de cela, il y a le trône. Ok, mais ça ne concorde pas, parce que chacun a eu sa façon de recevoir les choses, de les expérimenter, et a eu, avec ses faibles mots, une façon de les exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche rien au fait que cet endroit merveilleux existe. Mais parce que ce n'est pas prévu que nous ayons une description exacte du ciel maintenant. La seule chose que nous savons, c'est que la gloire de Dieu y demeure, que c'est un endroit merveilleux et qu'on est destiné à y aller. Mais on n'a pas besoin pour le moment de ça, on a besoin de fixer nos regards sur qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il veut pas qu'on se prosterne donc devant ces images taillées. Tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc j'ai dit Dieu unique, et le deuxième point, pour moi, c'est un Dieu jaloux. Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Alors, je ne sais pas si c'est comment ça vous parle, ça, mais normalement, pour nous, la jalousie, c'est pas forcément bien. Hein. C'est même assez négatif. La Bible nous dit dans Galates 5, 19, que la jalousie est une œuvre de la chair. Les œuvres de la chair, et il y a le côté de l'esprit. Donc, il y a un aspect négatif de la jalousie, œuvre de la chair. L'apôtre Paul aussi, dans 2 Corinthiens il leur écrit en disant certaines choses qui se passent par, chez vous démontrent que ça va pas fort. Hein. Dans 2 Corinthiens 12, il dit au verset 20, « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Donc, voilà, il fait toute une liste. Au milieu de ça, il y a la jalousie. Donc, c'est pas parce qu'il y a le même mot que c'est la même réalité. La jalousie, ici, c'est négatif, c'est pas bien, ça nous détruit. Donc, la jalousie, c'est d'un côté un sentiment fondé sur le désir de posséder une personne aimée, sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Ça, c'est la jalousie maladive. Certains qui sont atteints de cette jalousie, au lieu de conserver, par exemple, leur couple, au contraire, ils provoquent, par manque de confiance, ils provoquent la séparation, ils provoquent les problèmes. Donc, Dieu n'est pas concerné par cette maladie. Le deuxième point, c'est la jalousie, ça peut être un dépit envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui. J'ai déjà dit, la jalousie, c'est un autre a ce que je mérite, ou ce que je pense mériter. Je suis jaloux quand... Ah, il a ça, mais en fait, c'est moi qui devrais le recevoir. Ça, non plus, Dieu n'en est pas affecté. Mais il y a un autre aspect de la jalousie, c'est un vif attachement à quelque chose. On peut, par exemple, garder un secret avec une grande jalousie. Jalousement gardé. Déjà entendu ça? Un secret jalousement gardé. Moi, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut qu'on creuse un petit peu. C'est quelque chose dans la relation entre nous et Dieu est tellement précieuse pour lui qu'il veut jalousement le garder. Il veut surtout pas que ça soit affecté en aucune façon. Alors, il le préserve. Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie !» Il avait sa façon de parler, d'essayer d'amener les arguments. « Mais oui, supportez-moi !» Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme on est anachronique avec cette expression biblique maintenant dans le monde actuel. Un homme, une femme qui se gardent l'un pour l'autre et qui se gardent jalousement et ils veulent que ce soit une relation intense, unique et exclusive et c'est exactement ce que Dieu voulait, à la fois pour démontrer la relation entre l'homme et la femme, et entre lui et le genre humain. Mais il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc il dit, mais voyez, moi je suis jaloux de vous comme d'une jalousie de Dieu. Donc il parle de quelque chose qui est précieux. Un être aimé, c'est précieux, ça doit être protégé. Voilà l'idée de Dieu sur la jalousie. Je suis un Dieu jaloux. Quand il dit ça, je veux vous préserver des idoles, des influences du diable, des mauvais esprits, de la corruption du monde. Je veux vous protéger, vous garder pour moi. Je suis jaloux de ça. Et il est jaloux encore d'autres choses. Voilà, un petit peu plus loin, plus profond dans Jacques 4. Il nous est dit au verset 4 et 5, encore dans le contexte, « Adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» De nouveau, il traite ça sur le rapport de l'adultère. Si on a une relation avec le monde, alors qu'on devrait avoir une relation avec Dieu, on a une position d'adultère. Et il dit quoi ?« Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc de nouveau ce terme jalousie. Il a déposé en vous l'esprit. Et c'est quelque chose de précieux. Et il veille dessus jalousement. Parce que l'esprit c'est l'autre aspect de Dieu. C'est l'autre personne. On a parlé de Dieu, du Seigneur Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Trois aspects. Et là, il y a quelque chose de précieux qui doit être protégé. Donc, il veille jalousement sur vous Et en plus, parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez en vous le Saint-Esprit de Dieu, alors il veille encore plus parce qu'il vous a donné son Saint-Esprit. Et ce n'est pas une chose, ni une petite chose. C'est un être précieux. Et tout le monde ne pouvait pas le recevoir. D'accord ? Il fallait remplir des conditions. Pour que l'Esprit de Dieu puisse être répandu et reçu par des êtres humains, Jésus a dû mourir, il y a eu du sang versé, il y a eu une alliance avec le sang, et Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Donc, deuxième aspect, c'était le Dieu, d'abord le Dieu unique, puis le Dieu jaloux, et le troisième, c'est, et le dernier qu'on va voir ensemble, c'est le Dieu qui mérite d'être servi. Il a été dit, tu ne te prosterneras pas devant des sculptures, des représentations, des idoles, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, tu ne les serviras pas parce que c'est moi que tu serviras. C'est un Dieu qui mérite d'être servi. Est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit? Il dit dans la Bible qu'il n'a pas besoin. Il ne mange pas les sacrifices d'animaux, il n'a pas besoin de quelqu'un pour le servir dans le sens qu'il ne pourrait pas le faire autrement, mais il a choisi. Il a choisi que nous puissions le servir. Alors certains proclament ni Dieu ni maître, hein, mais si on ne sert pas Dieu, on sert qui alors? Certains pensent, ah oui, mais moi, pas de problème, je suis maître de ma destinée, j'ai besoin de personne. Mais la Bible dit dans 1 Jean 5, on va lire au verset 18, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc il y a deux royaumes, il y a le royaume de Dieu et il y a le monde où il y a la puissance du malin qui agit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, et là il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Si vous gardez pas des idoles, vous serez de nouveau sous l'influence du monde, et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il n'y a qu'un seul endroit où on est réellement libre, c'est dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, ben on peut servir Dieu, mais on n'est pas à ce moment-là esclave, dans le sens qu'on fait des choses qu'on n'aimerait pas, on fait des choses, au contraire, qui nous font réellement vivre. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul a écrit la chose suivante. 1 Thessaloniciens 1, verset 7. « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine. » Et non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais partout, votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes détournés des idoles, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Converti pour servir, cette expression est restée, peut-être vous l'avez entendu déjà, ça vient de là. On s'est détourné des idoles, on les a abandonnées pour servir le Dieu vivant et vrai. Et il y a quelque chose qui est rajouté, et pour attendre du ciel son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Donc il y a un plaisir à être serviteur dans la maison de Dieu. On pourrait dire, si vous voulez, pour schématiser, on pourrait dire dans une société, vous avez des gens, peut-être vous avez un palais, des serviteurs dans le palais sont plus heureux que des gens qui seraient à l'extérieur vivant dans la misère. On pourrait dire, oh, je suis libre, oui, tu es libre, mais regarde la vie que tu mènes. Alors que quelqu'un qui pourrait être au service dans un palais, il pourrait dire, mais moi je mène la grande vie. Donc, un Dieu qui mérite d'être servi. Josué a eu une discussion avec le peuple. Donc on va prendre Josué 24 par rapport au service. C'était au moment de la conquête, donc ils étaient rentrés dans une part de l'héritage de Dieu, et donc Josué a convoqué le peuple, c'est dans Josué 24 au verset 15, on peut lire le verset 14 déjà. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Faites disparaître les dieux. C'est un peu étonnant, non? Vous trouvez pas? Peut-être vous aviez l'impression que les dieux égyptiens étaient restés en Égypte et le peuple est parti et ils avaient que l'Éternel. Mais rappelez-vous, les Égyptiens leur ont donné des trésors. J'imagine qu'il y avait quelques statuettes par là. Et puis, ils avaient pendant 400 ans été esclaves. Et certains étaient peut-être tentés aussi de trouver les faveurs des dieux égyptiens, d'être influencés par les idoles. Les hommes ont toujours eu tendance à accumuler tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'amener la bénédiction dans leur vie. Donc, en pensant peut-être « ça me fera du bien », ça se traduit par toutes sortes de superstitions, d'amulettes, de choses qu'on pense qui vont amener quelque chose de bon dans notre vie. Donc, même pour le peuple, même après toutes ces années de sortie d'Égypte, Josué avait besoin de leur dire « faites-les disparaître ces dieux qu'ont servi vos pères, vos pères ». Ça veut dire que certains étaient influencés par l'Égypte de l'autre côté du fleuve. Et voilà une chose intéressante qu'il dit au verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. » Et un peu plus loin, donc, il nous est dit, « Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Donc, il leur met l'attention sur, « c'est pas facile de servir un Dieu comme celui que nous servons. » Et on avait vu que c'était difficile pour la nature humaine. Et il dit, « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, que vous servirez des dieux étrangers, il y a du malheur qui va venir. » Et le peuple dit, « Non, nous servirons l'Éternel. » Ils veulent vraiment prendre position. Alors Josué dit, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Donc, c'est un exemple d'une prise de position. On comprend que suivre Dieu, c'est aussi le servir. C'est aussi voir comment je peux lui être agréable. Donc, le résumé de tout ce premier commandement, c'est que nous devons craindre et aimer Dieu par-dessus toute autre chose et mettre en lui notre entière confiance. J'aimerais encore prendre la conclusion de Jésus dans Marc 12. On avait déjà vu ça, que des fois on essayait de le piéger par des questions. Et donc dans Marc 12, un des scribes, au verset 28, qui avait entendu Jésus discuter avec d'autres, il savait que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approche et lui demande « Quel est le premier de tous les commandements ?» Donc voilà, on est en train d'en parler. Et voilà la façon dont Jésus le résume. Voici le premier. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et remarquez bien, il lui a dit quel est le plus grand. Jésus en rajoute un deuxième. Et voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Remarquez bien, il voulait le piéger d'une certaine façon. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus s'est précipité de donner le deuxième. Parce qu'on a vu qu'il y a eu dans l'histoire humaine, que ce soit maintenant dans le judaïsme, dans le christianisme, ou même dans d'autres religions, le fait de croire servir Dieu, mais de devenir un fanatique, sans appliquer le deuxième commandement, aimer ton prochain comme toi-même, conduit à des excès. Parce qu'on est tellement sûr de notre bon droit, Et là, le fait que Jésus rajoute le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on ne peut pas aimer Dieu et aimer son prochain et en même temps se lancer dans des actions de folie, de tuerie, de toutes sortes. Vous voyez, c'est très important et c'est pourquoi il l'a donné. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Jésus, lui, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Avec tout ça, il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors que nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Parce que même en faisant tous ces efforts, on n'est quand même pas dans le royaume de Dieu. Puisque le royaume de Dieu, c'est être transporté par Dieu du système du monde dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est une opération du Saint-Esprit. C'est pas possible par les humains. Mais en même temps, il y a une réalité spirituelle qui nous montre que ce qu'on avait vu la dernière fois, essayer d'appliquer la loi de Dieu, c'est impossible pour notre nature humaine. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.